Bah, très heureux de vous retrouver et plaisir partagé pour ma collègue Mélanie Sabot en bout. On a organisé ensemble cet atelier sur le tourisme durable au Maghreb, un sujet qui est très important quand on sait toutes les problématiques de surtourisme ou même les problèmes environnementaux qui peuvent se causer au Maghreb, mais aussi des sujets qui sont très français finalement. Alors, laissez-moi vous présenter nos intervenants. Je vais commencer par la fin, par ordre d'intervention. Par Vianney Basse, vous êtes le directeur des opérations de l'Institut européen de coopération et de développement, l'IECD, un organisme spécialisé sur la formation professionnelle et l'insertion des jeunes, si je ne m'abuse pas. Et vous avez très beaucoup d'actions au Maghreb sur justement les emplois dans le secteur du tourisme. Ensuite, Sarah Arbez, chargée de coopération européenne et internationale à la région Centre-Val de Loire, la région centre qui préside le groupe Pays Maroc de Cité Unie France. Et vous nous parlerez de la coopération avec FES Meknès, qui est très représentatif finalement des coopérations franco-marocaines sur les enjeux de tourisme durable et rural aussi. Enfin, je te laisserai continuer. Et puis, Raphaël Troulier, directeur de l'ONG Tetractis. Vous nous parlerez du potentiel que représente le tourisme rural et le tourisme de montagne au Maghreb. Vous avez des actions au Maroc depuis de très nombreuses années. Et vous en développez aussi dans le reste du Maghreb. Donc on vous écoutera très bientôt. Et puis enfin, Zoé Luçon, chargée de projet à la mission méditerranée de la ville de Marseille. Vous représentez ici Samia Ghali, la maire adjointe de Marseille en charge des relations méditerranéennes, qui est retenue pour ses autres délégations. Vous travaillez depuis une vingtaine d'années sur les enjeux du tourisme durable, justement. Vous évoquerez la problématique du développement du tourisme durable au Maghreb. Et vous nous parlerez aussi des actions de la ville de Marseille dans ce domaine. Je vous laisse introduire l'atelier. Et puis, on gardera un temps de questions-réponses à la fin d'une 20-30 minutes, voilà, pour prendre vos questions. Partager vos expériences et vos difficultés éventuelles. Voilà.
Merci beaucoup. Donc je suis ravie de représenter la ville de Marseille. Oui, donc 20 ans sur les sujets de coopération en Méditerranée, mais à la ville, je suis toute nouvelle. Et j'ai rejoint en fait donc la mission Méditerranée, c'est une équipe de 5 personnes qui est en charge de la coopération internationale de Marseille avec les pays riverains de la Méditerranée, qui est dirigée par Yamina Boulkerara, que certains d'entre vous connaissent. Et donc je suis ravie d'intervenir sur ce thème qui est un enjeu économique, social et environnemental très fort, en particulier en Méditerranée, pour la ville de Marseille, mais comme pour la plupart des villes et territoires de la région. Je vais parler d'abord de quelques facteurs qui nous amènent à devoir complètement réinventer nos stratégies touristiques. En France, comme dans les pays du Maghreb, qui sont également de grandes destinations touristiques. Et je présenterai ensuite les axes de la nouvelle stratégie de Marseille en matière de tourisme durable, en citant quelques initiatives. Alors, sur les chiffres, bon, je vous en fais grâce, mais si vous en cherchez, néanmoins, je vous recommande les données et les études du Plan Bleu, qui est une organisation qui a son siège à Marseille et en fait qui agit pour le compte des Nations Unies comme un centre d'études, de production de données socio-économiques et sur l'état de l'environnement. Et donc, bon, la Méditerranée, c'est quand même un tiers du tourisme mondial. En moyenne, ça représente 12% du PIB des pays qui l'abordent. Et bien sûr, avec beaucoup d'effets sur les autres secteurs, beaucoup d'emplois indirects. Mais derrière ces chiffres, c'est une réalité avec des défis immenses. Bon, je vais me concentrer sur le réchauffement climatique, mais ce n'est pas le seul. Le bassin méditerranéen, il se réchauffe 20% plus vite que la moyenne mondiale. Donc, c'est énorme. Et puis, manque de chance, c'est en fait encore plus en été qu'en hiver. Donc bon, bah, le résultat, on le connaît à Marseille là, en ce moment. Nous, la vague de chaleur, elle se termine lundi. Donc, je suis contente d'être à Paris. Donc là, sur cette slide, c'est des données qui sont tirées d'un travail du GREC Sud, qui est en fait un mini GIEC, mais à l'échelle de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on va passer en moyenne à Marseille, où on avait un jour de vague de chaleur sur la période 1976-2005. En 2100, et pas avec les scénarios les plus sombres, on sera à 73 jours. C'est un cinquième de l'année. Je ne sais pas si on a envie de faire du tourisme. Enfin, on ne fait pas le même tourisme quand il fait là, comme aujourd'hui. Donc, à part les vagues de chaleur, y a malheureusement beaucoup d'autres impacts, en particulier pour les villes littorales, avec notamment des épisodes méditerranéens, des très fortes pluies qui accentuent aussi les risques de vagues submersion, des risques sanitaires qui explosent. Là, je crois qu'on n'est pas loin de voir la dengue et le chikungunya devenir des maladies endémiques dans le sud de la France. C'est une question peut-être d'années ou peut-être même un peu moins. Des algues toxiques qui conduisent en fait à fermer les plages, à rendre impossible la baignade, des incendies, des restrictions aux sites naturels. Il y a un permis calanque depuis plusieurs années dans Marseille pour restreindre le nombre de visites. Et puis en fait aussi, il y a beaucoup de jours où c'est simplement interdit. Donc bien sûr, le tourisme va être très très fortement impacté, mais le tourisme est aussi, en tout cas à l'heure actuelle, une partie du problème. Émissions de gaz à effet de serre, pollution de l'air. À Marseille, c'est un facteur majeur. Il y a une stratégie volontariste qui a été menée il y a 10-15 ans par la ville et la chambre de commerce de développer le tourisme de croisière. Et on en paye aujourd'hui le prix en termes de pollution de la qualité de l'air, dégradation des espaces naturels, etc. Et puis il y a d'autres problèmes, et là on le voit aussi sur la slide suivante, c'est sur le problème de saisonnalité du tourisme. Donc là vous voyez en fait à Marseille on est en moyenne à 70% de remplissage de l'hébergement touristique sur l'année, mais en fait c'est 90% en été et 50% en hiver, donc vous voyez une courbe qui est quand même très arrondi et avec des nuisances encore plus fortes pour certains habitants et puis des emplois saisonniers précaires, une concentration géographique aussi beaucoup sur les zones littorales qui laissent de côté des régions entières. Donc on voit que la stratégie touristique telle qu'elle était conçue en parlant de performance, de millions d'arrivées, elle touche à ses limites. On a des immenses chantiers à la fois en termes d'atténuation dans le secteur du tourisme comme dans les autres secteurs, travailler sur la sobriété, l'efficacité, décarboner, promouvoir une alimentation durable, etc. Et puis d'adaptation, de réduction des risques et puis de faire en fait vraiment évoluer les usages et les pratiques. Et donc on est vraiment face à un chantier de réinventer nos offres et nos pratiques touristiques. Et donc je vais montrer, c'est ma dernière slide, comment ça s'est structuré pour la ville de Marseille. Donc Marseille, c'est 900 000 habitants, à peu près 5 millions de visiteurs chaque année. C'est une destination qui attire de plus en plus. Si vous venez que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez prendre les recommandations du New York Times d'il y a un mois sur 36 heures à Marseille. On est hyper à la mode maintenant. Non, plus sérieusement, donc la ville de Marseille, elle a récupéré, c'est tout récent, en 2023, la compétence tourisme qui avait été confiée en 2018 à la métropole. Donc il a vraiment fallu tout repenser. Ça s'est matérialisé avec une nouvelle stratégie, Marseille destination durable et attractive, stratégie 2024-2030, pour un développement responsable du tourisme et des loisirs. Donc il y a 4 axes et je vais juste citer quelques exemples pour chaque axe d'initiatives qui sont menées. Donc Marseille destination responsable, c'est tout ce qui va être labellisation, hébergement avec le label clé verte et écotable pour la restauration. Une promotion qui est vraiment recentrée sur le tourisme durable et on arrête complètement les campagnes de communication en été. On ne communique plus sur le tourisme à Marseille pendant la saison estivale. Plein de projets, projet gourde friendly, comment remplir sa gourde pour pas acheter de bouteilles en plastique, inviter à faire des actions éco-citoyennes. On réfléchit en ce moment à mettre en place un bonus pour les visiteurs qui viennent en train. Voilà, donc beaucoup de des parcours fraîcheurs pour essayer de trouver un peu de répit dans la ville et des activités adaptées quand il fait trop chaud. Deuxième axe, donc j'évoquais la saisonnalité. Marseille à toute heure et en toute saison. Et là, vraiment, on a des atouts forts et qui sont pour l'instant sous-exploités, culture, gastronomie, Marseille, ville de culture urbaine, et puis aussi une opportunité qu'on a identifiée sur le tourisme d'affaires. Troisième axe, c'est Marseille pour toutes et tous. En fait, les Marseillais, c'est les premiers consommateurs de l'offre de tourisme et de loisirs, et donc aussi les premiers prescripteurs. Donc vraiment, repenser une stratégie de communication en intégrant bien les Marseillais dans les cibles du tourisme, et puis aussi développer une offre qui, pour l'instant, n'existait pas, de touristique populaire, et aussi avec des dispositifs solidaires. Et dernier point, Marseille, destination innovante et fabrique touristique. Donc il y a un observatoire du tourisme qui a été mis en place pour mieux comprendre les réalités du tourisme sur le territoire. Et puis pour travailler sur cette réinvention des pratiques, il y a un lab d'innovation touristique aussi qui a été créé avec vraiment aussi l'ambition d'une concertation permanente entre les acteurs du tourisme, les citoyens de la ville. Voilà. Donc, pour cette conclusion, je m'arrête là. Je voudrais juste dire que la ville de Marseille est très désireuse de travailler sur ces axes, que ce soit avec ses homologues en France, et puis bien sûr tout autour de la Méditerranée, parce que les solutions, elles n'existent pas ou encore très peu, et on a tout intérêt à les inventer, les partager, les faire passer à l'échelle. Et puis aussi, dans la mesure où la Méditerranée, première destination touristique au monde, c'est un bien public partagé et que ce n'est pas un seul pays ou une seule ville qui pourra contribuer à la préserver et la restaurer même. Voilà, merci beaucoup et j'ai hâte d'écouter les exemples qui vont être donnés de collaborations réussies dans des pays partenaires et d'y contribuer.
Bonjour à toutes et toutes. Donc, je m'appelle Raphaël Trouillet. J'ai l'honneur et le plaisir de diriger une association grenobloise qui s'appelle Tétractis, un nom qui vient de la Méditerranée, de la Grèce antique et de Pythagore. Je vous laisserai regarder sur Internet pour la définition précise. Donc, on va partir de la plage, des côtes, pour monter un petit peu plus en altitude et en montagne et vous partager l'expérience de Tétractis au Maghreb. C'était la commande de Cités Unies France. Et ça a été évidemment un oui tout de suite pour intervenir dans cette table ronde parce que l'histoire de Tétractis est intimement liée avec le Maroc et le Maghreb. Donc sur la prochaine slide, c'est moi.
Je peux le faire.
Ah oui, non, je peux le faire. Non, c'est celle d'avant. Ouais, voilà.
Si on le fait deux, mais par contre, il faut décider qui le fait.
Alors faites la prochaine, ça sera très bien ainsi. Le développement touristique, il est toujours et très souvent critiqué comme un objet d'utilisation des ressources, de démobilisation du tissu social de territoires ruraux ou de territoires de montagne, mais c'est aussi un formidable levier de développement touristique, et en particulier sur des territoires isolés, soit de montagne, soit de campagne. Et l'histoire des Alpes, c'est que pendant à l'après-guerre, nos villages se désertaient. Et donc des élus de montagne ont décidé de réfléchir à des outils pour leur territoire, pour accompagner la transition d'une agriculture et d'un élevage vers une pluriactivité. C'est ainsi que sont nés des outils de formation, donc des centres de formation technique au métier du tourisme, comme l'AFRAT dans le Vercors, le Centre régional et européen du tourisme à Briançon, ou plus anciennement, c'était l'École nationale de sport et d'alpinisme de Chamonix. Donc des outils techniques qui permettent aux jeunes des territoires de renforcer leur capacité, d'avoir des compétences techniques et ensuite de pouvoir rester au pays. Donc la devise de tous ces élus de la montagne à l'époque, dans les années 60 et 70, et tous ces mouvements ruraux, c'était vivre dignement au pays. Et dans les années 80, toutes ces expérimentations territoriales et ces processus de développement ruraux ont été sollicités pour être partagés à l'international. Et l'État français a été sollicité par l'État marocain, donc en 1982, pour accompagner ce qu'on appelait à l'époque le tourisme d'arrière-pays. Maintenant, ça ne se dit plus trop comme ça parce que c'est péjoratif. Mais en tout cas, c'était l'idée. Et donc, a été proposé un programme pilote autour de l'Atlas central qui était inspiré par la grande traversée des Alpes. Et donc, le programme, il s'est appelé tout simplement projet de structuration de la grande traversée de l'Atlas marocain avec une double action. À la fois structurer un itinéraire de grande randonnée, 32 jours d'itinérance, 56 gîtes balisés et structurés, organisés dans ce cadre, dans ce programme de coopération franco-marocain, mais aussi et surtout, et c'était ça l'innovation, créer le centre national de formation au métier de la montagne au Maroc. Donc, et il n'a pas été construit à Marrakech ou dans une grande ville marocaine, il a été construit dans un tout petit village des Aïk Boughmès qui s'appelle Tabante, tout comme avaient été construits les centres de formation technique au métier de la montagne pour les ruraux ou pour les montagnards. Donc avec cette même philosophie que les outils techniques de formation sont au cœur des territoires et sur la thématique qui les intéresse. Et donc, cette opération a été menée entre 82 et 92, et à la suite de cette opération, l'ensemble de ces acteurs, donc des élus de la montagne, des guides de haute montagne, des formateurs, des gestionnaires d'hébergement et des formateurs à l'hébergement touristique, ont décidé de créer cet outil, un outil dédié au partage de l'expérience alpine sur les enjeux de protection et de valorisation des patrimoines. C'est ainsi qu'est né Tetractis, et du coup, évidemment, quand on nous sollicite sur un partage d'expérience autour du Maghreb, on dit tout de suite oui. Donc merci pour l'invitation. Je vais rapidement me concentrer sur le Maghreb. Simplement, cette carte, elle vous montre l'évolution. Et vous voyez que c'est un itinéraire de randonnée, ce n'est pas pour rien, avec toutes ces petites trames de côté. Tetractis, c'est un opérateur de coopération décentralisée. On accompagne les collectivités, donc la ville de Grenoble, depuis 30 ans, le département de l'Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes, différentes métropoles, dans la structuration et la mise en œuvre opérationnelle de projets liés au développement touristique rural et de montagne. Donc c'est vraiment notre ADN. Au centre de notre gouvernance, il y a toujours des élus de montagne. Le président Christian Pichou, qui est ici présent, est un élu de Loisan, qui a présidé le parc national des Écrins et qui regroupe à la fois des élus, des formateurs, des professionnels du tourisme, avec cette idée que nos expérimentations dans nos différents massifs de montagne peuvent inspirer d'autres territoires dans le monde. La deuxième slide, si vous le voulez bien, c'est sur les territoires d'intervention. Donc on ne travaille pas uniquement au Maghreb, mais dans différents territoires du monde, souvent en montagne. Dès qu'il y a un petit peu de pente, le CA de Tetractis valide le projet. Quand c'est plat, c'est un petit peu moins évident. Avec toujours cette logique d'un triptyque, des aménagements, d'où sur les territoires, avec l'idée d'avoir un projet démonstratif, la formation des acteurs sur le territoire, renforcer les compétences, tout de suite directement des hébergeurs, des guides, des artisans, avec cette logique de renforcer l'attractivité ou la compétence de la destination sur laquelle on est. Et ensuite, la dernière phase qui est essentielle et qui manque souvent, l'approche de commercialisation des offres proposées pour qu'elles deviennent une économie qui ait réellement du sens sur le territoire. Allez, on arrive maintenant je veux bien la prochaine si vous voulez bien, sur le potentiel. Bon, vous connaissez tous, si vous êtes dans cette salle, c'est que vous avez déjà de près ou de loin eu connaissance de ces territoires. Le Maghreb en tant que tel, c'est une destination absolument exceptionnelle, mais qui est un peu le parent pauvre de la Méditerranée. Hein. Première destination mondiale, un tiers des visiteurs du monde sont en Méditerranée, mais ils sont concentrés en haut, sur la rive nord de la Méditerranée et sur la rive sud. Ça commence, mais en peine. Malgré cet immense potentiel, c'est quand même un petit peu les derniers du classement, même si il reste la Libye qui est vraiment, vraiment encore, encore loin, loin, loin derrière. Les chiffres, en effet, c'est à peu près 12% pour le Maroc du PIB du pays. Mais c'est une moyenne, voilà, c'est ça. En France, on est sur ces niveaux-là. C'est le Maroc, la première destination en Afrique. En 2024, le Maroc dépasse l'Égypte. Quand même, sacrée destination touristique pour arriver à un montant, j'ai regardé tout à l'heure, 17 millions, plus de 17 millions de visiteurs en 2024. La Tunisie, 10 millions de visiteurs, et l'Algérie, 3,5 millions de visiteurs. Donc on est quand même à des échelles différentes sur ce territoire Maghreb. Sous cette destination Maghreb, la France, première destination mondiale, c'est 90 millions de visiteurs. Donc il y a quand même quelques gaps. Je vous ai mis quelques petits noms de territoires qui font instantanément rêver pour tous les amoureux de la montagne ici présents, j'imagine. Je vous en ai, évidemment, l'Atlas, la vallée du Rif, la vallée du Drac ou les dunes de Merzouga au Maroc. Janet, Taman Rasset, ça c'est dans l'imaginaire collectif des destinations absolument exceptionnelles, le massif du Hoggar, et puis en Tunisie, là où il n'y a que Djerba dans la tête des gens, j'ai plutôt voulu citer le Dahar ou le Grand Erg oriental avec des dunes absolument somptueuses. Donc le patrimoine est là, je vous ai juste cité des massifs de montagne ou des éléments naturels. La culture est absolument exceptionnelle. L'hospitalité est unique au monde. Donc il y a tout pour en faire quelque chose de grand avec un vrai levier de développement touristique. Tous les experts du développement touristique le confirment. Cependant, juste un point de vigilance, il y en a des dizaines et des dizaines, mais le prochain, c'est évidemment sur l'eau. Allez-y, c'est sur le stress hydrique. Le Maroc est déjà à l'heure actuelle en stress hydrique. Le chiffre que je vous ai mis, c'est que les disponibilités en eau courante ont diminué de 60% depuis 40 ans en Afrique du Nord. Donc elles diminuent, elles sont vraiment en réduction. Et le Maroc, et même la Tunisie, sont en stress hydrique. Très important. Les habitants ont uniquement 500 mètres cubes d'eau douce par habitant au Maroc, quand il en faudrait, il y en avait 2500 disponibles en 60, et l'ONU préconise d'avoir au minimum 1000 mètres cubes d'eau par habitant et par an. Donc il faut quand même en avoir conscience, et que quand la stratégie est une stratégie de développement touristique massive, il faut avoir conscience que les ressources, et en particulier l'eau, ne sont pas illimitées. Et donc, c'est ce que j'ai mis, hein, quelle forme de tourisme privilégié ? Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas développer le développement touristique parce que c'est un secteur important pour ces territoires, et en particulier les territoires de montagne. Par contre, il faut réfléchir à la forme de tourisme à développer. On va commencer par deux exemples de coopération décentralisée. Ensuite, on partira plutôt sur les perspectives. C'est ce qui m'avait été demandé, c'était proposer des réflexions sur les solutions ou les perspectives qu'on a sur ces territoires. Avant tout, et juste pour un petit clin d'œil, donc la grande traversée de l'Atlas marocain, ça aurait pu être un très beau programme de coopération. On aurait pu être très satisfait de notre histoire et que cette grande traversée ait permis de créer ce formidable outil qui était Tractis, mais pas uniquement. C'est que cette grande traversée, elle a vécu sa vie. Le programme s'est arrêté en 1992. Elle s'est structurée, elle est autonome totalement dans sa mise en tourisme depuis cette époque-là. Il n'y a plus d'intervention spécifique. Et aujourd'hui, si vous tapez, et allez sur la slide suivante, si vous tapez Grande Traversée de l'Atlas marocain sur Internet, je vous en ai mis qu'un. Alors, le petit témoignage, c'est qu'en 2008, donc il commençait à y avoir la commercialisation de la destination, la GTM était considérée comme la meilleure destination de randonnée au monde au départ de l'Europe par les grands tours opérateurs d'aventure de l'époque. Et aujourd'hui, en 2025, tous les tours opérateurs d'aventure internationaux commercialisent la Grande Traversée de l'Atlas marocain. Elle est toujours présente, elle est pilotée par des agences réceptives marocaines, et c'est un produit structuré, organisé, et qui est économiquement très important pour la zone de l'Atlas, de l'anti-Atlas et de l'anti-Atlas. Donc c'est pour vous dire que la pérennité, qu'une action de coopération, elle se juge à la fois sur la pertinence à court et moyen terme pour avoir de l'impact. On nous demande de l'impact, hein, c'était le leitmotiv hier de M. Rioux, impact. Il faut le mesurer aussi à moyen et long terme, c'est comment les acteurs des territoires s'approprient le projet, la destination pour en faire quelque chose d'utile pour leur territoire. Petit exemple de coopération décentralisée qui a duré quand même entre 1998 à 2016 par le département de l'Isère. Donc sur deux zones spécifiques que sont la région de Tadla Azilal et la région du Sousse-Massadra. Donc en plein cœur de l'Atlas et des superbes paysages. De très nombreuses, vous pouvez aller sur la slide suivante, de très nombreuses actions. Toujours dans les dispositifs du MAE de programmes triennaux, sur la formation, sur la création d'itinéraires de randonnée, sur la formation des giteurs, sur la protection du patrimoine, sur même la valorisation des mondes souterrains, toujours en essayant de trouver une expertise adaptée de nos territoires pour partager l'expérience, et avec toujours l'idée qu'on puisse accueillir chez nous les partenaires marocains pour qu'ils appréhendent ce qu'est le développement touristique sur nos territoires et s'inspirer des expérimentations alpines pour les appliquer sur les territoires marocains. Et je voulais faire un focus sur un micro-projet, dans un douar, un petit village absolument exceptionnel. C'est la prochaine, si vous voulez bien, à Megdaz, un tout petit village dans l'Atlas marocain. Et donc là, on y a travaillé pendant plus d'une décennie. Au début, sur des enjeux de restauration de greniers collectifs, donc entre 2000, la prochaine s'il vous plaît, entre 2004 et 2006. Donc c'était vraiment la demande locale, c'était de travailler sur un grenier qui était en train de s'effondrer, de restaurer ce grenier collectif pour qu'il ait à nouveau sa fonction collective, à la fois sociale et à la fois économique. Ensuite, la demande a été sur l'aménagement piétonnier de l'entrée du douar. On ne pouvait pas rentrer et du coup on passait dans des micro-chemins qui étaient cabossés. Et du coup on a travaillé sur le cheminement à l'intérieur du village. Puis nous avons travaillé à la structuration d'un gîte de montagne qui était géré par le groupement d'intérêt économique et par l'association du village. Et enfin, on aurait peut-être dû commencer par là, mais à l'accès à l'eau potable. Le problème, c'est qu'il fallait faire 600 mètres de dénivelé pour aller capter une source d'eau potable. Et du coup, le programme était relativement lourd et qui a permis... à 4,5 km du village, ça a été une totale aventure. Il a fallu même, il y a une photo là où on voit un tuyau passer dans une gorge. Il a fallu passer la gorge parce que sinon il fallait descendre puis remonter 300 mètres de dénivelé, ça ne marchait pas. Bref, voilà une action qui est tout à fait concrète, pertinente, concentrée sur une zone et qui permet à ce que les conditions de vie dans la communauté soient plus agréables qu'avant. La deuxième expérience, c'est en Tunisie. On va changer de côté. Là, on est vraiment sur du renforcement de capacité des acteurs. Alors là, c'est la coopération suisse, c'est pas les Français. Je suis désolé, Mélanie. C'est la coopération suisse qui nous a sollicité suite à cette expérience au Maroc pour réfléchir à des itinéraires à la journée autour du massif du Dar. Puis on y est allé. Et ils voulaient nous faire travailler sur deux randonnées à la journée autour de Matmata, une dans le centre du Dar. Et puis, donc on leur a tout de suite dit non, sérieusement, vous avez un territoire exceptionnel, une cohérence territoriale, faites une grande traversée, même si les gens ne feront pas les 13 jours de randonnée, ils en feront deux ou trois, mais ça sera bien la grande traversée du Dar. Donc on continue à accompagner des structurations de grandes randonnées dans le monde, et on considère que ça peut être un bon outil pour les territoires. Donc on a accompagné cette structuration de la grande traversée, on a édité les topo guides, a été mis en place tout un système de promotion sur la destination. Après, Grande Traversée du Dard, vous verrez qu'il y a plein d'outils extraordinaires. Et ce sur quoi je voulais insister, c'était sur la formation des guides. Donc les guides du Dard étaient peu formés à l'activité de randonnée. Et le référentiel de formation des guides en Tunisie, tout comme dans de nombreux pays où on intervient, il n'y a qu'un seul diplôme de guide qui existe, c'est le guide national. Et généralement, il n'est pas adapté au milieu montagnard. En France, la diversification de la certification des métiers de guidage ou d'accompagnement dans les milieux, il y a 27 titres officiels pour être guide BE, BE d'escalade, BE d'eau vive, BE de parapente, BE de VTT, BE, enfin bon, on a toute la panoplie de l'ensemble des activités sportives de nature. Là, il y a un titre qui est le guide national, c'est le seul qui vous permet d'intervenir dans tous les milieux. Faire une visite de Tunis dans le souk ou dans la médina de Tunis et faire accompagner une randonnée de 9 jours dans le Dard, c'est pas le même métier. C'est définitivement pas le même métier. Donc on a formé les guides sur un pilote, on a démontré au ministère du Tourisme qu'il y avait un référentiel qui tenait la route, et ensuite on leur a proposé de passer à l'échelle et de structurer une formation de formateurs au niveau national qui a été validée, et on a structuré le référentiel national des guides de randonnée, tout ça basé sur le référentiel français des AMM, des accompagnateurs moyenne montagne, et avec un formateur national de l'école nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix, donc avec avec un sérieux dans l'accompagnement et dans la formation. Pas simplement envoyer un guide lambda à la retraite qui pourrait faire très bien les choses, mais c'était structuré et calqué sur des référentiels techniques de formation en France. Ça me paraissait important parce que souvent, quand on parle de guidage, c'est bien pour tout le monde et ça peut être fait par un petit peu n'importe qui. Et ce n'est pas tout à fait le cas, en fait. Maintenant, nous allons parler des perspectives. On a la chance d'avoir monsieur Emmanuel Carroz, qui représente la ville de Grenoble. Et juste avant, s'il vous plaît. Voilà, ne sautez pas Grenoble quand même. Ils ont eu la très bonne idée de conclure leur envie de travailler avec le Maroc en signant, il y a 2 mois maintenant, une nouvelle coopération décentralisée avec la ville de Tiznit. Le maire de Tiznit est venu à Grenoble et est venu dans les Alpes. On lui a montré quelques liens. Il était déjà en lien dans le cadre de la coopération décentralisée avec Sousma Sadra. Et donc la convention est signée. On part dans 2 semaines définir un nouveau projet de coopération sur les enjeux de tourisme et de jeunesse. Donc vous voyez que la coopération décentralisée entre le Maroc et la France continue et ont de belles chances de continuer. Une deuxième, allez-y. On a été sollicité par une association marocaine il y a 2 ans maintenant, ou 3 ans, qui s'appelle Fondation Mémoire pour l'Avenir. Super association de Fès. Non, c'est là, c'est Sarah. De Fès, qui a pour objet de renforcer le dialogue interreligieux sur l'arrière-pays de Fès. Il y a beaucoup pour les jeunes qui n'ont pas de connaissances sur l'histoire de leur territoire. Ils pensent qu'ils sont musulmans depuis toujours. Les synagogues ou les églises ou les tombeaux partagés ne sont rien d'autre qu'un tas de pierres qui n'a pas de sens. Et donc, avec cette association, on a imaginé de construire ou de réfléchir un itinéraire, cette fois plutôt culturel, qui mettrait en valeur l'héritage interreligieux de cette région, qui est absolument exceptionnelle, avec des sites archéologiques majeurs, avec des sites pré-hébraïques même, puisque la route entre Jérusalem et l'ensemble de la rive sud de la Méditerranée était très intense, comme chez nous. Et donc il y a des traces hébraïques, des traces chrétiennes, puis des traces évidemment islamiques sur l'ensemble du territoire, avec une capacité de dialogue avec des sites partagés absolument exceptionnels. Donc on a présenté cette initiative à l'Union européenne, qui a trouvé que c'était tout à fait passionnant. Ils nous ont présélectionnés.